Vous écoutez France Culture.
Bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe des Papous. Pour la récré de France Culture, au menu, une balade du côté de chez Signe, lundi, ascendant chef de gare. Et puis, léger strabisme divergent, un regard tordu sur le tableau de David, La mort de Marat, Dominique Muller.
Bien sûr, il s'agit d'une charge humoristique, appuyée par le moment que le peintre a choisi de fixer, celui où le dentiste interrompt sa besogne pour présenter sa facture.
Ah bon, en plein milieu de l'extraction de la dent.
On croirait l'entendre dire, hors cadre, un chèque où je dévitalise la racine sans anesthésie.
Ensuite, lexicomania, origine du mot bêtise, par Hervé Le Tellier. Retour à la peinture avec les lettres inattendues et puis... Les amours d'Annette par Jacques Jouet et enfin de Papou. Nous glisserons vers le Japon pour les impressifs, onomatopées en jeu, oula oula, Véronique Brindeau.
Je n'offense personne autour de cette table en rappelant qu'il s'agit de Otomo no Yakamochi, donc 718-785.
Oui.
Et voilà ce qu'il dit. Oula oula ni tereru aru hi ni hibari agari kokoro kanashimo hitori shi omoeba.
Je vous invite à une promenade ludique qui nous gardera ensemble jusqu'à 13h58. Et après, eh bien, direction franceculture.fr pour podcaster les papous du jour. C'est possible durant un an pour nous garder toujours à portée d'oreille dans vos collections et nous emmener partout dans vos promenades et voyages. On se lance avec une page de Publipapoucité, pub culturelle et papou. Décalé forcément, rédigé par Patrice Caumont, philosophe et homme de pub, avec des rôles pour Dominique Muller, Hervé Le Tellier et Gabriel Godard en chanson et au piano, musique.
On a tous quelques pros en nous de Yourcenar, toutes ces feuilles que Marguerite nous narre. Elle qui mâche ses mots comme des carambars, qui travaille dur son œuvre mais au noir. Quelques doses de Yourcenar, grand nègre d'Adrien pour ses mémoires. Sous la langue c'est le divin nectar qui vous emporte l'âme au lupanar. Quelle glucose en nous la Yourcenar. Mais y a pas que Yourcenar en Marguerite dont ses feuilles les grimoires. Y a du racé Marguerite de Navarre. Petites histoires, c'est autre chose, Yourcenar. Loin de celle de la dame aux camélias, cette Marguerite de fausse est l'avatar. Elle écrit proprement et sans buvard. C'est comme du Claudel, mais en moins bavard. Que brille la grande ours noire.
Vous aimez le grec ancien. Chaque matin, vous lisez du latin. Alors, dès le petit déjeuner, dégustez un yaourt sanar, le yaourt des Césars.
Suétone vous étonne, Horace vous délasse, Tacite vous excite et Properse vous transperce. Alors, dégustez le yaourt sanar, le yaourt nature qui n'a pas peur de vide.
Léger comme Tibulle, grâce à son apulet demi-écrémé, riche en calcium et en latium, contenant moins de lipides que ripides.
C'est la crème du style, l'inimitable goût de la langue, juste en saluste, c'est nectar de Sénèque, juvénile comme juvénal, yaourt senard. Nature ou aux fruits, c'est du titre-livre en live.
Collectionnez sur chaque boîte de 6 les vignettes qui narrent les aventures d'Adrien, le petit ours noir, la mascotte de nos yaourts, le yaourt sonard, reconnaissable à sa marguerite, sur son pot en habit vert.
Quelques doses de yoursenard, ça vous rafraîchit vraiment la mémoire. Sous la langue, c'est le divin. C'est plus du yaourt bio, c'est du Mozart. Quel lactose en nous, le yaourt senard.
Merci Gabriel. Du côté de chez Signe, avec Lucas Fournier et Jean-Bernard Pouy. Alors, pour les sceptiques qui ne croient pas à l'influence des astres sur nos destins, à la position du soleil ou de la lune, à la seconde de notre naissance, une balade sans zodiaque au pays de nouveaux signes inventée par nos spécialistes papous. Figurez-vous qu'on peut naître pyjama ascendant tisane et se tenir bien droit dans la vie. Le paillasson, ascendant parapluie, aura lui intérêt à trouver le compagnon idéal. Quant à la tasse de thé, ascendant série télévisée, son avenir sera excitant au possible. Tout, vous saurez tout sur le nouveau signe du jour. Avec Lucas Fournier, profil, point fort, tendance professionnelle. Et nous découvrirons ensuite pour lui les prévisions de la semaine à venir. Amour, santé, mon conseil par Jean-Bernard Pouy. Bien, Lucas Fournier, vous nous présentez ce signe et son ascendant privilégié.
Puisque nous sommes dimanche, je voulais vous parler du signe du lundi.
Ah oui.
Ascendant chef de gare.
Ah, j'adore.
Oui, mais écoutez, pas sûr. Hein. Vous savez que les Allemands ont les Sonntag Kinder, qui sont les enfants nés le dimanche et donc porte-bonheur. Nous avons les lundis. Les enfants du lundi sont par définition nés un lundi.
Ouais.
Mais pas n'importe quel lundi. Hein. Un lundi de rentrée, après un pont ou des vacances, ce qui aggrave leur cas. C'est donc malgré tout un signe assez répandu, hélas. Je dis hélas parce que les natifs du lundi sont pessimistes, démoralisés, flappis, accablés, lugubres, fatigués. Nerveux, négatif, palichon, triste, déprimé, sans énergie, sans espérance. Heureusement, il y a l'ascendant.
Et voilà, qui compense tout.
Le nôtre est aujourd'hui chef de gare. Et oui, l'ascendant chef de gare ajoute à la mornitude du lundi classique un supplément d'âme. Alors comment obtient-on cet ascendant chef de gare?
Oui.
Alors en naissant tout simplement non pas dans un train, puisque ceci vaut pour l'ascendant contrôleur ou garde-barrière, mais les enfants chefs de gare sont nés dans une gare ferroviaire, grand voyageur aux banlieues, et plutôt dans la salle d'attente, mais ça peut être aussi au buffet.
J'ai deux sœurs qui sont nées dans les salles d'attente.
C'est oui. Deux sœurs ascendant chef de gare.
JB, il est né au buffet, lui.
Vous allez reconnaître vos sœurs. Donc l'enfant lundi, chef de gare, se remarque très vite par son caractère bruyant, cri strident, ronflement intempestif. Il joue bien sûr au train électrique, et à 2 ans, il sait déjà lire l'heure. Et ses premiers mots sont « papa en retard ». Ou « maman en retard », mais c'est plutôt « papa en retard ».
Oui, toujours, oui.
On reconnaît le lundi chef de gare à sa tenue vestimentaire, jamais de Friday wear, jamais endimanché, toujours en tenue ordinaire. Si dans un mariage, un type arrive en tenue de ville avec un truc sur la tête, c'est lui à tous les coups. Il ne chante jamais, c'est son côté lundi, mais il siffle, c'est le versant chef de gare. Et ce qu'il siffle n'est jamais gai, que c'est triste un chef de gare qui siffle dans le soir. Sa sonnerie de téléphone est « whistle, whistle ».
Oui, bien sûr. Oui.
Il siffle les filles, il siffle les voitures. Il pourrait faire un bon gardien de la paix, d'ailleurs, ou une contractuelle. Observez-les. Elles ont la maussaderie du lundi et le goût des chiffres du chef de gare, avec leur carnet à souche rempli de numéros. Le lundi, c'est ravioli. Chez le lundi chef de gare, on est strict sur les horaires de repas. Tout retard le contrarie. Le pire qu'il puisse lui arriver, c'est bien sûr de manquer un train. Rassurez-vous, il ne voyage pas. C'est le type qui regarde passer les trains sans jamais monter. Il reste célibataire, tant mieux. Une vieille légende disait que les chefs de gare... Un lundi, chef de gare était secrètement amoureux d'Anna Karénine, Elle ne l'a pas su, c'est dommage. Il a beaucoup de mal à garder ses amis. Il y a toujours un moment où on le quitte. Et bien sûr, Kairos, la divinité frétillante de l'occasion saisie au vol, est son ennemi. Jamais un LCG, lundi chef de gare, ne partira sur un coup de tête, non. Un coup de tête le décoifferait et il fait attention à son chef et à son couvre-chef. Jamais il ne connaîtra l'ivresse d'un week-end à Rome, d'une virée entre copains, d'un impromptu. Alors que font-ils dans la vie, ces petits LCG ? Le signe produit des clercs de notaire, des employés de remonte-pente, c'est très bien, des surveillants généraux, qu'on appelle aujourd'hui CPE. Et les plus avancés finissent même inspecteurs des écoles. Certains ont réussi au-delà de toute espérance. Le commissaire général au plan est un LCG. Le signe a néanmoins quelques bons côtés.
Ah, quand même,
oui.
C'est long à venir, mais...
Il produit des gens de qualité, travailleurs, précis. Si j'étais DRH, je ne prendrais que des LCG. D'ailleurs, le pays au monde qui compte le plus de LCG, lundi ascendant chef de gare, c'est la Suisse, suivie du Japon. Alors, le plus célèbre LCG fut sans conteste Alexei Stakhanov, cet ouvrier modèle de l'industrie soviétique.
Ouais.
Camus, qui n'était pas du tout de ce signe, prétend que Sisyphe était un lundi chef de gare. Plus près de nous, Annie Ernaux, Alphonse Daudet, qui écrivit les contes du lundi, sont également de ce signe. Donc, finalement, sa vie n'est pas une existence, et vous savez comment ça finit. Un dimanche soir, il disparaît sans crier gare.
Il va siffler sur la colline, c'est ça ?
Oui, ou il est peut-être le lundi au soleil.
Ah, voilà.
Ah, c'est mieux.
Jean-Bernard Pouy, moi, je vous connais bien. Enfin, je ne connais pas tout de vous, mais je connais certaines choses.
Oui, ça m'étonne.
Et notamment... Non, c'est vrai, je ne le prétends pas. Et notamment que vous avez une passion pour les gares, que votre papa travaillait dans une gare, et que, voilà, et que vous aimez ça, quoi.
Oui.
Les gares barrières, tout ce qui a trait, d'ailleurs...
J'aime que les trucs ont disparu, quoi.
Ouais, d'ailleurs, quand vous prenez un train, vous arrivez facilement une heure à l'avance à la gare pour arpenter, pour humer.
Pour sentir la gare.
Voilà, exactement. Ouais. Donc vous êtes tout désigné pour traiter ce sujet qui a pour nom lundi ascendant chef de gare. Hein, c'est un sujet, homme ou femme, et il faut lui dire ce qui va lui arriver la semaine prochaine.
Alors c'est une petite revue syndicale qui s'appelle le signal d'alarme.
Et c'est là que vous travaillez.
Oui, c'est là où je travaille, là où je fais la rubrique astrologique.
Ouais.
C'est une revue syndicale et de protection médicale du personnel de la SNCF.
Ouais.
Donc très 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 suivi. Travail.
Ouais.
Alors pour les LCG, c'est-à-dire les lundis chefs de gare, un conseil absolu pour les LCG, déposez vos RTT les lundis uniquement. Tentez absolument d'oublier ce jour néfaste. Si vous êtes d'astreinte, faites-vous remplacer par un bon copain en travaillant le dimanche à sa place. Et le mardi, à coup de clé à molette, vengez-vous sur ceux qui, un siècle et demi après, se moquent encore du chef de gare. Santé, le lundi, restez dans votre bureau fermé à double tour et servez-vous un chemin de fer. Un tiers vodka, un tiers armagnac, un tiers vin du Jura avec une goutte d'angostura et une pincée de graisse d'essieu. Profitez-en pour trier votre collection de vie du rail et rattraper votre retard auprès de la caisse de prévoyance. Profitez-en pour postuler pour la gare de Canfranc, où il n'y a plus, ce qui est une des plus belles gares de France, où il n'y a plus de train depuis au moins 50 ans.
Elle est où, cette gare ?
C'est dans les Pyrénées.
Dans les Pyrénées.
Ah bon ? À Canfranc,
oui. Ah oui.
Et justement, si vous buvez quand même deux ou trois chemins de fer, ce qui est très bien, c'est qu'à la fin de soirée, enfin au début de soirée, vous aurez vraiment là l'impression que les rails se rejoignent. Amour, le lundi, profitez-en pour aller aider la jolie garde-barrière du kilomètre 134. La barrière est électrique, vous n'avez même pas besoin de redoubler de vigilance. Aidez-la à bêcher son jardinet et à soigner ses poules. Ça vous fera du bien de revenir aux vraies valeurs d'avant 36. Mon conseil, n'attendez pas d'en avoir ras la casquette et de n'avoir que les cieux pour pleurer. C'est le moment de raccrocher les wagons.
Vous avez été embauché pour votre sens de l'humour, votre sens de la saillie.
Je sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de postulants.
C'est le ballast des gens heureux.
Et in cortile organizzato con Geppine e l'Angiolino e col piccolo Pietrino, un serraglio che un bijou, rimediata alla tintura necessaria per giocare, cominciamo a pitturare bel vero se blu, e giù a pitturare e a tinteggiare. Guarda che bel serraglio riuscimmo a far. si dipinge il rosso il cane che chiamavasi Bianchino, e così da un barboncino ecco che un gran belleo, tutto verde un coccodrillo sul maiale improvvisato, ridipinto e insassicciato in un copertone. E con qua, messi qua e là, la pecora e la tigre si cambierà. E rifacemmo anche la zebra dipingendo sul ciuchino strisce in bianco e di turchino che faceva un figuro. Ad un ramo sospendemmo per finire anche Pietrino, il frignante frugolino era uno scimmio. Contadina e contadino, papà e mamma di Pietrino, tutti in grande disperazione, si strappavano i capelli, il mio povero maialino, il bambino, il mio Pietrino, che esagerazione! Ma per evitare contrarietà, salta su ciucchetela a gran velocità.
Rita Pavone et Nino Rota. Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. À suivre L.S.D. Léger strabisme divergent, un regard en biais sur la peinture ou comment regarder un tableau fameux en écartant tout ce qui a été dit ou écrit sur lui, en oubliant la volonté objective du peintre sur sa toile. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, laisser voguer son imagination. C'est le regardeur qui fait le tableau et il a le droit de se laisser emporter dans le rêve. Et pourquoi les glaneuses de Millet ne seraient-elles pas en train de papoter tranquillement tout en guettant l'arrivée des trois mousquetaires ? Et pourquoi le rouge de Rothko ne serait-il pas une tentative de bleu qui aurait mal tourné ? À ce jeu, nous jouons avec des tableaux célèbres, ils sont dans nos mémoires collectives, mais comme une piqûre de rappel n'est jamais nuisible, je vous signale que sur notre site, à la page des papous du jour, un lien vous renvoie au tableau en jeu. Et j'en remercie Abel, internaute fidèle au papou, qui le met dans les commentaires à chaque nouveau LSD. Je compte sur vous, Abel, pour aujourd'hui. C'est Dominique Muller, la rêveuse. Alors, quel tableau avez-vous choisi pour le L.S.D. du jour, Dominique ?
Un tableau, je crois, assez connu, La mort de Marat de David, peint en 1793, en pleine ferveur révolutionnaire.
Bon, Jérôme Clément très gentiment le montre au micro, tout le monde le voit bien.
Vous le voyez tous.
Mais comme Jérôme Clément est un garçon très gentil, il en a fait une description objective.
Objective,
vous,
absolument.
Vous n'avez pas le droit d'être trop malicieux, vous pouvez être amusant.
Ah bah, je ne sais pas si c'est amusant, compte tenu du sujet, c'est pas toujours facile d'être amusant sur la mort de Marat. Mais enfin,
alors qu'est-ce qu'il y a sur la toile ?
Au centre de la page, une lettre, ou plutôt une main qui tient une lettre. Évidemment, le regard est attiré par ce courrier. Est-ce d'ailleurs un courrier, tenu par cette main qui semble bien qu'inerte, agrippée à ce document ? L'autre main est laissée à l'abandon et tombe vers le sol tout en tenant une plume. Un écrivain. C'est donc un écrivain et l'encrier posé sur un petit meuble à côté confirme cette première impression. L'homme a les yeux fermés et semble s'être laissé aller dans ce que l'on pourrait croire être un profond sommeil. La tête est projetée à l'avant du tableau, enturbannée, et une couverture verte enveloppe le bas du corps. Couverture sur laquelle des draps blancs ont été installés. Est-il dans son lit ? Tout le laisse penser. Il s'est endormi en écrivant au lit, et la posture est touchante. Tant l'homme qui dort offre une fragilité qui séduit bien des femmes. Mais précisément, celle qui est venue vers lui est tout sauf attentive. Car si l'on se saisit d'une loupe pour lire ce qui est inscrit sur les documents au centre du tableau, on lit ceci. Du 13 juillet 1793, Marie-Anne Charlotte Corday au citoyen Marat, il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Et sur le petit meuble posé près de la baignoire, car ce n'était pas un lit, est écrit au pied du meuble « À Marat, David ». C'est donc bien cela. L'assassinat de Marat par Charlotte Corday, tableau de Jacques-Louis David, peint en 1794 et conservé au Musée royal des beaux-arts de Belgique.
Voilà, on a tous le tableau bien en tête maintenant. Parfaitement décrit, cet homme qui ne dort pas. Enfin, si, le profond sommeil, c'est la mort, oui, évidemment. Lucas Fournier, je ne vous ai pas demandé de travailler sur ce tableau, puisque c'est Dominique qui a longuement travaillé, et chez elle, sur ce tableau. Mais comme ça, une petite interprétation possible, si vous portiez votre regard à vous sur la toile, qu'est-ce que vous y verriez?
Je l'aurais intitulé « Robinson Crusoe, achevé par son manuscrit ». Vous vous souvenez que Robinson a échappé à la noyade,
ouais.
Donc il est maigre mais musclé, et contrairement à ce qui est écrit dans le livre, il n'a pas été vêtu de peau de bête, il est resté dans le simple appareil où la mer l'a abandonné. Et donc le voilà drapé dans les voiles de son navire échoué, ayant enfin accouché de son livre, et il tient la dernière page qu'il a écrite, l'encre de sèche est à peine sèche, et de l'autre main qui pend, c'est une plume... Tourubou, qui est l'oiseau qu'on trouve dans ces contrées. L'effort a été tel qu'il s'est endormi, il est épuisé. Et Amara David, qui est écrit en bas, évidemment, c'est le nom du bateau sur lequel était... Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le dernier de cordée dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est bien de Robinson Crusoe.
Bon, c'est la petite interprétation de Lucas Fournier. Elle est mignonnette.
Oh, hein. Très, très même. Oui, elle me plaît beaucoup.
Oui, et plausible.
Elle me plairait encore plus si c'était la bonne.
Ah, c'est pas la bonne.
Enfin, la bonne.
C'est pas la vôtre.
Ouais, enfin, j'ai regardé ce tableau, j'ai tenté d'oublier tout ce qu'on en connaissait, tous les clichés, n'est-ce pas?
Okay.
Bref.
Et alors?
Et donc, ce tableau, pour moi, est une amusante scène de genre, de ces représentations anecdotiques de la vie quotidienne. La toile a pour décor le cabinet du dentiste.
Ah bon ?
Et fait sans doute référence au vieux proverbe « Quand l'arracheur a la dent dure, sa proie a une dent contre lui ». C'est un proverbe populaire, encore de l'Ancien Régime, il faut dire. Le fond, uniformément brun vert, indique que la consultation a lieu dans un réduit inhospitalier où rien ne rassure le patient. Cette impression est renforcée par nombre de particularités. D'abord, ce patient... est très mal assis dans un fauteuil profond, d'où se relever est impossible. Le dossier du siège en fer blanc, symbole de l'univers glacé de l'hôpital, est recouvert du drap qui a servi à le protéger durant l'extraction. Il n'y a qu'à observer ses éclaboussures sanglantes et le couteau sur le sol pour deviner que l'opération s'est déroulée avec vigueur. Bien sûr, il s'agit d'une charge humoristique, appuyée par le moment que le peintre a choisi de fixer, celui où le dentiste interrompt sa besogne pour présenter sa facture.
Ah bon, en plein milieu de l'extraction de la dent.
On croirait l'entendre dire hors cadre « un chèque où je dévitalise la racine sans anesthésie ». Notons que le patient a été bloqué dans son fauteuil par la table à roulettes poussée contre lui. Les instruments qu'il a parsèment sont recouverts d'un tissu vert à franges. Sans doute la blouse usée du dentiste ou peut-être le vêtement du patient, nous y reviendrons.
Ouais.
Sur cette table, bien lisible, est posée la lettre d'accompagnement de la facture. En date, la veille de la fête nationale insiste sur l'urgence du règlement. Qui aimerait être renvoyé avec sa rage de dents la veille d'un jour férié? Qui plus est, durant l'été, quand mettre la main sur un dentiste n'est pas une mince affaire.
Ah ouais. Mais c'est la lettre pour la mutuelle aussi. Je suppose qu'à l'époque, il y avait des mutuelles de santé aussi.
En dessous, sans doute, détail piquant de l'entête, nous y reviendrons. Le praticien est une praticienne. Cette Marie-Anne-Charlotte Corday tourne sa demande avec sournoiserie. Il faut que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance, comme si M. Marat, son destinataire, la mettait sur la paille s'il ne réglait pas sa dette sur le champ, alors qu'elle va partir en vacances, probablement. S'apprête-t-il à le faire, tenant à la main une plume? Proche de lui, un encrier est posé sur une caisse en bois avec le contenu de ses poches. Ironie du sort, plaisamment soulignée par le peintre, c'est la caisse de vin reçue de son ami David par ce Marat, cadeau recyclé pour, selon l'usage, se concilier la bienveillance de la dentiste. Mais cette délicate attention ne suffit pas à cette insatiable. Non contente de lui avoir fait les poches, elle l'a forcé à se dévêtir sous couvert de le mettre à l'aise pour s'assurer qu'il ne partira pas à la sauvette. Nous voyons donc Marat réduit à s'exécuter s'il veut en finir, car il en a plein le dos, ainsi que l'évoque sa position écartée du dossier, comme si fraises et pinces invisibles occupaient l'espace. Son visage aux yeux clos traduit sa lassitude, accentuée par le turban qui lui entoure la tête. C'est celui qui portait en arrivant noué autour de sa joue enflée, tel qu'on peut en voir sur nombre de caricatures, et que la dentiste a repoussé pour lui ouvrir la bouche. Elle l'a maintenue béante si longtemps qu'il est incapable de la refermer, ce qui lui donne ce sourire figé, caractéristique du patient livré aux mains du dentiste. Revenons à l'absence de vêtements, au sexe féminin de la dentiste et à sa blouse. Il est permis de penser que le peintre a voulu suggérer deux amants à l'œuvre sur ce fauteuil, juste avant l'intervention. Le fantasme a la vie dure, et il serait alors un élément satirique supplémentaire. Ni plaisir ni vin ne sont de taille à amadouer un être inflexible quand il s'agit de ses honoraires. Cependant, ce n'est qu'une hypothèse. L'esquisse subtile des évocations fait toute la force de ce tableau qui incite le spectateur à vivre la scène comme s'il y était dans ce fauteuil. Et chacun de nous y a été et y sera un jour ou l'autre. De même, il laisse à son imagination ou à ses souvenirs la figure de la dentiste qui plane autour du cadre. Cette peinture dépasse la convention anecdotique grâce à la tendresse du pinceau de l'artiste. Il semble murmurer que plaie d'argent n'est pas mortel et que tout finira bien. Monsieur Marat fera son chèque, se relèvera de son fauteuil, partira en remerciant le docteur Cordet de ses soins. N'est-ce pas grâce à elle que, sa douleur oubliée, il ira danser au bal de la fête nationale ?
Le brave homme, oui. Voilà. Oui, on y croit, son interprétation, non, Jacques Bertrand ? Absolument, oui. Vous êtes déjà retrouvé dans la situation de Marat, là, en l'occurrence chez le dentiste, la tête un peu inclinée, mais vous, vous avez payé tout de suite, non ?
Ben, dans la baignoire, on paye en liquide. Hein.
Fillette comblée de bonheur, on dit que tu n'as pas de cœur, on dit que tu es égoïste parce que jamais tu ne t'attristes.
Les catastrophes du monde entier te font moins mal que tes petits souliers, ça prouve que ta grande pitié est trop lourde et tombe à tes pieds.
Tu as beaucoup de cœur, éprouvons-le sur l'air. Tu partages ton bonheur avec ton petit chat et c'est bien comme ça.
La joie de ton chat se lit dans tes prunelles.
Je sais bien qu'il n'est pas repu, petit peu.
Mais je vois dans tes yeux qu'il est heureux.
Quand il est heureux, tu en deviens plus belle.
Tu as bien plus d'éclat que ne ferait-on pas pour la joie, pour la joie, pour la joie de ton chat.
Tralalala.
Tu oublies vite le passé, tu ne pleures pas les trépassés. Tu limites ton avenir à ce qui sur l'heure va venir.
Tu ne considères le présent qu'en fonction des plus ou moins gros présents que l'on fait à ton animal. Et après tout, il n'y a rien de mal.
Dès qu'on s'y intéresse, pour peu qu'on le caresse, ou à plus forte raison si j'y donne un poisson, c'est la jubilation.
La joie de ton chat se lit dans tes prunelles.
Je sais bien qu'il n'est pas repu, si peu.
Mais je vois dans tes yeux qu'il est heureux.
Quand il est heureux, tu en deviens plus belle.
Tu as bien plus d'éclat que ne ferait-on pas pour la joie, pour la joie, pour la joie de ton chat.
Car ton chat est aussi à moi.
Embrouille miné par presque oui, Lexicomania. À l'origine de certains noms communs, il y a bien souvent une personne dont le nom sera à jamais précédé d'un article. Si par exemple l'honorable préfet Eugène Poubelle est dans nos mémoires, c'est parce que le premier, il a eu l'idée de mettre des containers pour ramasser les ordures ménagères, liant son nom à jamais à cet objet. Pas très ragoûtant, il faut bien dire les choses. Alors que Poubelle était une bien jolie homophonie de plus belle, poubelle, plus belle. Dommage pour lui. Il en va de même pour Boycott, Macadam. Alors, me direz-vous, pourquoi eux et pas les autres ? Pourquoi n'y aurait-il pas eu un monsieur de rez-de-chaussée pour donner son nom aux appartements au niveau de la rue, par exemple ? Nos travaux lexicomaniaques nous poussent à l'envisager. Et d'ailleurs, Hervé Letellier a retrouvé pour nous une demoiselle bêtise, peut-être à l'origine du nom commun bêtise.
Jeanne de Villiers est née à Marcoing, donc dans la banlieue de Cambrai, en 1562. Elle, sa naissance, petite anecdote, hein, en pleine nuit, est marquée par un incident. À peine sortie du ventre de sa mère, à peine a-t-elle reçu une tape sur les fesses, qu'elle donne un violent coup de pied dans l'œil de la sage-femme, qui, surprise, recule, déséquilibrant une bougie allumée, qu'une servante veut rattraper, faisant elle-même un pas en arrière, se cognant à la rambarde de la fenêtre ouverte et tombant sur le toit du poulailler qu'elle traverse pour s'écraser dans les œufs. La bougie continue à rouler, enflamme un rideau, et la mère, l'enfant sont aussitôt sortis de la chambre, qui s'enflamme, incendie qu'on n'éteindra qu'avec difficulté dans l'après-midi du lendemain.
Ça, c'est un début. Hein, dans la vie.
Alors, ça passe pas inaperçu.
Donc, évidemment, on change aussitôt son prénom pour celui de Elisabeth Isabelle, en hommage à sa grand-mère paternelle, Elisabeth,
oui.
Qui était infiniment maladroite. Un jour, je vous raconterai une anecdote très amusante, mais hélas, le temps nous manque. Et de sa grand-tante maternelle, Isabelle, qui était plutôt simple d'esprit. Au fond, un jour, alors qu'elle s'en rendait au marché de Manière, enfin bon, je vois que le temps passe, nous évoquerons ce petit épisode plus tard. Donc, Elisabeth Isabelle, qu'on commence à appeler Elisabethise, pour ne pas la confondre avec sa sœur Elisabeth. Puis très vite, bêtise, pour faire plus court, parce qu'en plus, Elisabethise, Elisabeth, bon, ouais. Fait preuve d'un sens inné de la bévue, il faut bien le dire.
Elle est faite pour ça, quoi. Ouais.
À 2 ans, elle se coince la tête dans un harnais. À 4 ans, elle boit le vin de messe oublié par le curé pour communier avec Jésus, dit-elle. À 6 ans, elle parvient à attraper un faisan, mais elle le ramène à la maison où il s'échappe dans la cuisine, en brisant toute la vaisselle. À 10 ans, par un concours de circonstances rares que nous tairons ici, car le temps nous est compté, c'est elle qui provoque le massacre de la Saint-Barthélemy.
Ah oui.
Bon, et à 12 ans, les parents de Bêtise la placent dans la seule confiserie de Cambrai, où à peine 6 mois plus tard, elle renverse de la menthe dans du sucre caramélisé et elle est renvoyée. Bon, alors...
Pourtant, c'était pas bête, non ? De la menthe dans du sucre caramélisé,
je sais pas. En tout cas, elle est renvoyée. Oui. Bêtise n'ose avouer son renvoi et elle prend le chemin de Paris. La France est agitée par les guerres de religion qu'entretiennent les conflits entre grandes puissances d'Europe. Bon, à Paris, elle devient blanchisseuse, elle tombe enceinte. Eh oui, âgée de à peine 14 ans, d'un commis de 17 ans, qu'elle épouse, et elle accouche un nombre convenable, de mois plus tard, d'une petite fille dodue, à laquelle elle donne comme prénom, enfin son propre surnom, elle l'appellera la grosse bêtise, jusqu'à ce que celle-ci, âgée de 7 ans, ayant perdu du poids, lui demande de l'appeler Josette, ce qui est quand même plus simple à porter. Alors voilà, à 24 ans... Son mari a été emporté par la maladie, ça arrive.
Hein. Ouais, oui.
Elle rentre à Cambrai avec sa fille, où elle vit paisiblement jusqu'à sa mort, en 1623, ne faisant plus des bêtises. Le nom nous est resté. Eh oui.
Un point de vue sur bêtises, Gérard ?
J'aurais aimé la connaître.
Ah, vous aimez bien quand on fait
oui,
des bêtises ?
Oui, ça me plaît, ça. Oui. Et puis surtout, cette naissance extraordinaire,
oui,
magnifique,
ça.
Absolument. J'aurais aimé être là.
Et la filmer, parce que...
Et surtout, attraper la bonne qui tombe par la fenêtre dans mes bras avant qu'elle tombe dans le poulailler. Ou alors la faire tomber
ou tomber avec dans le
poulailler, mais quelle merveille. Ça, c'est l'amour.
Ah, les fantasmes sexuels de ce garçon m'étonneront toujours.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. À venir, les lettres inattendues, nouvelles amours ou les amours d'Annette, et le jeu des impressifs ou onomatopées japonaises avec Véronique Brindeau, Jean-Bernard Pouy, Dominique Muller et Jeanne Carillon. Lettres inattendues ou bien qui aurait pu penser qu'ils s'écriraient un jour ? Personne. Certes, ils auraient pu se croiser, ils ont partagé un bout de siècle, des idées aussi. Peut-être, des goûts et leur contraire. Et pourtant, on a bien du mal à les imaginer en correspondance. Alors, qui sont-ils ? Personnalités de tous les milieux ou leurs proches. Le commandant Cousteau écrivant à Jacques Lacan, improbable. Et pourtant, Hervé Le Tellier et Jacques Vallée ont retrouvé des bouts de lettres manuscrites. John Wayne et Staline, encore plus inattendus. Toutefois, demander son témoignage à Jean-Bernard Pouy, il est édifiant. Alors aujourd'hui, c'est Odile Conseil qui a cherché et qui a trouvé. Et nous sommes dans la peinture. Étonnez-nous, Odile, qui êtes-vous ?
Je suis Céleste Albaret, gouvernante de Marcel Proust, et j'écris à Piet Mondrian. Parfaitement.
À Brad Pitt Mondrian.
Cher Monsieur Mondrian, Monsieur Marcel vous aime beaucoup. Hier encore, je l'entendais dire que ce Monsieur Mondrian est un génie, un homme au sens infiniment plus aiguisé que la Vulgate, qui, lorsqu'il regarde la nature... n'y voit pas des arbres ou des moulins à vent, ou du moins y voit-il derrière ces arbres, derrière ces moulins, et même plus encore à l'intérieur de ces arbres, de ces moulins, ce qui en fait le squelette, l'architecture, l'essence même de la chose regardée, abstraction faite de l'image que la réalité, trompeuse, fourbe parfois, cherche à nous renvoyer. Voilà ce que disait M. Marcel, abstraction faite de quelques qualificatifs supplémentaires et élogieux dont il vous a également gratifié, vous n'ignorez pas à quel point il peut être disert. mais si je prends sur moi de vous écrire ce jour, c'est pour évoquer un problème relatif à votre dernier travail, celui que vous venez de faire porter chez M. Marcel et que je ne lui ai pas encore montré, vous comprendrez vite pourquoi. J'irai droit au fait, étant moins habitué que M. Marcel aux longues phrases pleines de circonvolutions et aux gracieusetés, préciosités, disent certains, du langage. Or donc, voici. Le plan que vous avez réalisé pour refaire la cuisine ne convient pas. Mais alors, pas du tout. D'abord, vous nous proposez un schéma tout en carré et en angle, alors que la table de la cuisine est ronde et elle ne figure même pas sur votre croquis. Ensuite, il n'y a aucune indication écrite sur votre plan. Il a fallu que je devine que les carrés blancs que vous faites figurer ici et là sont autant de placards pour les ustensiles de cuisine, comme si j'avais le temps de jouer aux devinettes. Et pourquoi diable les avoir disséminés un peu partout dans la pièce ? Vous en avez placé de chaque côté de la porte, de chaque côté de la fenêtre. J'ai compris que ces grosses lignes noires représentaient porte et fenêtre, mais au passage, vous omettez d'en indiquer le sens d'ouverture. C'est gênant, car la porte, une fois ouverte, va aller taper contre le placard blanc situé à sa gauche.
Oh, c'est trop bête, ça. Ah oui, c'est pas bien.
Il serait donc tellement plus pratique de grouper tous ces placards au même endroit, croyez-en une praticienne de la cuisine. Je vois également, avec un peu de consternation, la juxtaposition d'un carré bleu et d'un carré rouge, celui-ci pour la cuisinière, certainement, et celui-là pour l'évier. Vous voulez donc marier l'eau et le feu ? Quelle étrange idée ! Un Hollandais comme vous devrait savoir que c'est strictement impossible, ils sont incompatibles. Un mot enfin de ce rectangle jaune qui éclate au centre de votre plan. J'apprécie que vous ayez voulu rendre hommage à M. Marcel en évoquant le petit pan de mur jaune dont il parle longuement, page 693. Ce petit pan de mur jaune devant lequel Bercotte trouve la mort en contemplant le tableau de Vermeer. Le problème, c'est que M. Marcel ne va jamais à la cuisine. Mais moi, si. Et j'ai horreur du jaune. Devant ce petit pan de mur jaune que vous voulez installer dans la cuisine, je serais bien capable de rendre l'âme, comme Bercotte, surtout devant une cuisinière rouge et un évier bleu. J'espère, cher M. Mondrian, que vous ne prendrez pas mes critiques en mauvaise part et que vous serez en mesure de soumettre à M. Marcel un nouveau projet sous peu. Dans cette attente, je vais mettre celui-ci au rebut. Soyez assuré, M. Mondrian, de ma respectueuse considération.
On écrit bien chez Proust, quand même. Hein, c'est pas mal.
Oui, ah, il y a un peu d'imprégnation.
Ouais. Oui, oui, elle fait sûrement très bien la cuisine aussi.
Il
n'y
a pas une faute d'orthographe. Hein.
Ah oui, vous avez regardé par-dessus l'épaule de Dil. L'écriture manuscrite a l'air très jolie, très élégante d'ailleurs.
Il y a des taches de grâce qui prouvent que c'est vraiment une authentique.
Voilà, elle a fait un bœuf miroton.
Non, sûrement.
Du coup, on comprend pourquoi, pour les cuisines, plutôt que les Hollandais, il vaut mieux penser aux Suédois. Moi.
Pascal Fioretto, vous êtes quelqu'un chez les Proust ? Est-ce que vous avez eu connaissance de cette lettre ? Ou vous êtes M. Mondrian lui-même et vous l'avez reçue ?
Je suis effectivement Piet Mondrian.
Ah, et lui-même et oui, et non, parce que la lettre aurait pu être un petit peu capturée par quelqu'un de la maison et jamais envoyée. Non, elle est partie.
Non, elle est bien arrivée et j'ai répondu à Mme Albaret.
Ah, bien.
Chère Madame Albaret, vos remarques pleines de bon sens ont fait sur moi l'effet d'une véritable épiphanie artistique. Céleste, oui, oui, vous vous êtes bien prénommée, vous êtes Céleste. Pour tout vous dire, j'en tremble encore de tous mes membres et je dois avouer que si cela devait continuer ainsi, je serais bientôt contraint de me mettre à l'art cinétique. Mais je n'en suis pas encore là. Revenons à votre missive. Quelle pertinence, quelle acuité dans la critique, quel regard acéré. Vous êtes la toute première à avoir compris ce que moi-même j'avais tant de mal à saisir. Comment ai-je pu me laisser aller à coller un rectangle bleu et un carré rouge, alors que, comme vous l'avez tout de suite saisi, le bleu aurait dû se trouver tout près des deux carrés blancs, autrement dit, entre le placard à vaisselle et le compteur électrique. Bref, vous avez bien fait de jeter mon tableau. Je vous en ferai tenir un autre très vite, beaucoup plus ergonomique et tout aussi arbitraire.
En fait, il ne fabrique pas vraiment des cuisines, vous savez, Céleste.
Il répond à ma demande, il va en envoyer un nouveau, c'est parfait. Moi, je suis Zosange.
Zosange. Zosange.
Oui. Quand on est Céleste, on peut être qu'aux anges.
Pour obtenir des tableaux de peintres célèbres, j'ai envoyé un.
Très malin, ouais, très malin.
Cher Ricardo Mosner, j'ai bien reçu le plan de votre salle de bain, néanmoins.
Pourriez-vous déplacer
quelque peu le lavabo, qui semble être la tache noire et rouge vous avez mis près de l'évier.
Et peut-être que comme Piet Mondrian, Ricardo découvrirait qu'il dessine des plans de séjour ou de salle de bain depuis toujours.
Ah, mais
sans le savoir. Sans le savoir.
J'ai fait ça. Il y a des, et pas qu'il y ait des salles de bain. Hein.
Et pourquoi vous venez pas chez moi?
quand vous voulez.
Le chameau monte sur la dune et ensuite il redescend. Dans le désert réfléchissant la lampe jaune de la lune. Quand il est en haut de la dune, le chameau voit sur le versant d'une autre dune, c'est intéressant. Un autre chameau sous la lune. Souvent de chameaux qui vont en rêvant porter leur de basse sous la lune. Et c'est pourquoi il y a guerre dans le désert de dromadaires.
Et il fallait le dire, Doralou. Nouvelles amours ou les amours d'Annette. Annette, l'héroïne résolument sentimentale de Jacques Jouet, pour elle, amour et toujours ne rime pas, elle est volage, Annette. Chaque semaine de nouvelles amours, dans le monde du travail ou pas. Et parfois, certaines de ces amours vous font songer à d'autres amours. Est-ce pure coïncidence? Ou bien à malice de Jacques Jouet, qui nous dit bien que les amours d'Annette ne sont à nul autre pareil, en nous narguant d'un énorme clin d'œil. Annette et son slip de verre. Annette et sa toux camélia, Annette et son collègue Adam, Annette du côté de chez Proust. Aujourd'hui, eh bien, Annette serait une belle étrangère. Jacques Jouet pour les amours d'Annette et c'est la quinzaine du blanc.
Je me présente, je suis l'employé du pressing, là, boulevard Henri IV. Ça a une importance, Henri IV. Le pressing qui a pour cliente Madame Annette depuis déjà bien une dizaine d'années. C'est l'une de nos meilleures clientes. Moi, je l'appelle ma cliente. Bonjour ma cliente. Bonjour mon blanchisseur. En fait, elle a un accent anglais. Alors, oui. Je l'ai fait une fois pour toutes, peut-être dans la suite, je l'abandonnerai.
Oh, c'est dommage, un oui, très bon vrai. Accent, Jacques.
Elle affectionne d'utiliser le mot très suranné de blanchisseur. Blanchisseur. Il faut avouer que blanchisserie, ça a une autre allure que pressing, sauf à exclure le bleu, jaune, rouge et les complémentaires. Mais bon, les goûts et les couleurs. Bonjour ma cliente préférée. Bonjour, mon meilleur blanchisseur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour votre service? Elle a fait des grosses tatouages à ses co-corsages? Si c'était que ça, mon blanchisseur. Et elle me montre ses mains. Oh, quelle horreur! Et elle me dit, my hands, ça ne part pas. Il reste encore une tache. Il reste toujours une tache. La tache se déplace. Je l'enlève avec un doigt et elle ressort par la paume. C'est une drôle de dame, cette Madame Annette. Elle est très belle, elle est charmante, et certaines fois, on peut lire sur son visage une espèce de rage qui ferait presque peur. Un jour, elle m'a expliqué que sa vie était toute simple car elle avait un projet. Elle voulait seulement que sa vie ne ressemble à aucune autre, et notamment son couple. Elle est très heureuse en ménage, Madame Annette, mais elle m'a confié que son mari manquait d'ambition. D'ailleurs, c'est un peu comme vous. Me dit Madame Annette. Ça fait 10 ans que je suis cliente ici et vous êtes toujours employée. Vous voulez que je sois quoi? Bah, le patron. Mais il y en a déjà un. C'est bien ce que je disais, me dit Madame Annette. Vous n'avez aucune ambition. C'est vrai. Eh bien, le mari de Madame Annette, c'est pareil. Il est cheminot. Et elle s'est mise en tête qu'il devienne directeur général exécutif de la SNCF. Mais je n'ai pas assez d'instructions, dit le mari. Mais enfin, espèce de minable. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu es le meilleur, tu ne fais jamais grève, tu t'habilles en jaune à chaque arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel sans cesser toi de travailler, tu fais des heures sup, en veux-tu, en voilà, sans exiger de prime ou de 13e mois, tu travailles la nuit et les dimanches quand on te le demande, le patron t'apprécie, il t'a montré un exemple, il t'a décoré de l'ordre de la loco d'argent. Il t'a pas décoré de l'ordre de la loco d'argent? Non, la loco de bronze. Oui, c'est vrai, mais alors? Il n'a pas dit un jour que la SNCF irait mieux si des gens comme toi étaient aux commandes. Mais il voulait parler aux commandes d'un train. Pas du tout, aux commandes générales. C'était une boutade, il était à Dijon.
Oh, oh là là, elle est lamentable.
Ça. Mais voilà. Je commence à comprendre que comme Madame Annette a une idée en tête, elle ne l'a pas dans sa boîte à pharmacie, là où on laisse si volontiers se périmer les médicaments. Alors que je redis à ma cliente, « Bonjour ma cliente adorée, qu'est-ce qui peut faire pour vous aujourd'hui le blanchisseur ? Vous êtes bien pâle, dites donc, il y a quelque chose qui ne va pas ? Regardez. » Et comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, elle me montre ses mains. Et elles sont noires de cambouis. Ça ne veut pas partir. Je suis taché à vie. Calmez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis. C'est mon mari ! Eh bien quoi, votre mari ? Il ne voulait rien entendre. Que voulez-vous dire ? Vous en dites trop ou pas assez ? Faut tout vous arracher. Vous pouvez tout me dire. Tout restera entre nous. Je serai muet comme un confessionnal. Non, davantage. Eh bien voilà ce qui s'est passé. Sur mes instances, mon mari s'est enfin décidé à inviter à dîner le directeur général exécutif de la SNCF. Tout s'est très bien passé d'ailleurs, je vous apporte aussi la nappe et les serviettes. Vous y trouverez quelques taches de soupe au canard et de pernant vergelès. On avait tout prévu. C'était un jour de grève, un jeudi soir. Si bien que notre invité a été obligé de dormir à la maison, il n'y avait plus de train pour rentrer à Paris. On le met dans la chambre d'amis. Alors je dis à mon mari, c'est le moment mon garçon. Le moment de quoi, je dis, moi, le blanchisseur. Ah, c'est drôle, dit Annette, c'est exactement la phrase que m'a dite mon mari. Vous êtes vraiment tous les mêmes, les hommes, des poules mouillées qui ont trouvé un couteau. Un couteau ? Vous ne voulez même pas dire que vous... Bah si, c'était mon plan. Exécuter le directeur exécutif ? C'est ça. Premier acte. Tu menaces le directeur général exécutif de la SNCF. Signer cet ordre de nomination de mon mari au poste de directeur général exécutif adjoint de la SNCF. Ou vous êtes mort ? Il signe. Deuxième acte. Signer ce papier sur lequel il est écrit « Il s'agit d'un suicide ». Il signe. Troisième acte, on le tue. Quatrième acte, le directeur exécutif adjoint passe ipso facto directeur exécutif. Cinquième acte, l'affaire est dans le sac. Le sac de linge sale, dis-je avec à propos. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il y a eu un grain de sable. Lequel ? Le directeur général exécutif de la SNCF portait une cotte de maille. Le couteau s'est tordu. J'ai essayé de l'étrangler, mais en saisissant le type au collet, mes mains ont glissé sur une espèce de graisse de cambouis noirâtre qui m'a empêché de presser le cou suffisamment longtemps, tellement ça glissait. Alors on l'a assommé et on lui a percé l'aorte avec le couteau à pain. Mais c'était quand ? Hier soir. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser du goudron, c'est ça ? Oui, le sang est parti, mais pas le goudron. Il reste toujours une tache sur mes mains. Je compte sur vous, blanchisseur, c'est votre métier, non ? Bah, je veux bien essayer, que je dis, mais il va falloir me laisser vos mains quelques jours, que je puisse les passer en machine. Il faut ce qu'il faut, a dit Madame Annette. Vous savez ce qu'elle a fait ?
Non.
Elle a brandi sa machette. J'ai eu tout juste le temps de l'arrêter. Ne faites pas ça, malheureuse ! Pourquoi ? Comment pourrez-vous couper votre main gauche quand vous n'aurez plus de main droite ? « That is the question. » Heureusement, l'argument a porté. Et je n'ai eu à m'occuper que de la nappe et des serviettes. Ce n'est pas tous les jours, mais reconnaissez qu'on a parfois de drôles de clientes.
Vous la reconnaissez, la Lady Macbeth de Jacques Jouet, Eva ?
Eh bien non.
Ah bon ?
Ça m'a plu, mais pourtant, alors avec Lady Macbeth, je vis tous les jours.
Non.
If you have a chance to see a frog dancing, it might seem a little surprising. They spend much more time on romancing, touching bodies, kissing and sighing. Never question their integrity, their sincerity just astounds me. They're as loyal up in the city as they would be down in the country. If you catch them dancing a samba, you will surely shout, "Ay caramba!" Hear them softly sing a bolero, and your love will make you declare, "Oh, I love you, dear little froggies. Won't you come with me to the Casbah? We'll make love beneath the moon and stars, and then I'll eat your legs."
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Jeu avec les impressifs. En compagnie de Véronique Brindeau. Elle aime le Japon, Véronique, et sa langue si subtile qu'elle traduit d'ailleurs. Lire Ikezawa Natsuki, par exemple. Elle enseigne l'histoire de la musique japonaise au Langzo. Elle écrit sur le Japon, Louange des mousses, Anafuda, le jeu des fleurs. Mais comme tout bon papou qui se respecte, si elle travaille très sérieusement sur son domaine préféré, en l'occurrence qui touche au Japon et notamment le théâtre no, elle ne se prend pas au sérieux et elle aime jouer et pas qu'avec les fleurs. avec les onomatopées japonaises ou impressifs aussi. Si caractéristiques de la langue japonaise, ces impressifs traduisent un état, une impression, d'où impressif, un bruit. Leur musique est douce à l'oreille, souvent doublée, choulou-choulou, guisa-guisa, ga-ga. Et ils sont si nombreux, un gros dictionnaire est nécessaire pour tous les contenir. Alors, avec Véronique Brindeau, j'ai proposé aujourd'hui à Dominique Muller, à Jean-Bernard Pouy, de s'emparer d'une certaine onomatopée ou impressif, de lui imaginer une signification, un peu, vous savez, à la manière de notre jeu des mots nouveaux pour le dire, et d'écrire, bien sûr, des pastiches d'auteurs célèbres qui auraient pu en connaître l'existence de cet impressif et l'utiliser dans leurs écrits. Tout est imagination dans ce jeu, sauf ce que nous révélera Véronique Brindeau en fin de partie. Et puis, pour rester dans l'ambiance japonaise, Jeanne Carillon nous chantera une chanson. Elle a travaillé son accent avec Véronique. C'est dire si elle nous étonnera. Jouons avec les impressifs, deuxième épisode, et une petite bouffée de Mitsue Nala pour l'ambiance. Aujourd'hui, Véronique Brindeau, on s'intéresse à l'impressif qui dit « oula oula ». Est-ce que je l'ai bien prononcé ?
Parfaitement.
« Oula oula », c'est plus mélancolique ou c'est plus rude ?
Ah non, on est dans une grande douceur avec « oula oula ».«
Oula oula », voilà. Donc c'est tout doux. Et vous êtes deux à avoir joué avec « oula oula », Dominique Muller, Jean-Bernard Pouy.
Oula, oula.
Donc l'idée, c'était que vous vous empariez de cet impressif, oula, oula, et que vous imaginiez d'abord quel pourrait être son sens, et puis, est-ce que vous avez retrouvé des traces ? Donc, entendons-nous bien, il s'agit de pastiches que vous auriez écrit.
Quand vous y allez ?
Non, je n'ai pas fait de pastiches. J'ai trouvé vraiment des traces.
Oh, mais bravo, Jean-Bernard. Ah non, mais je comptais sur vous, comme ça, oui. Mais il faut toujours mieux préciser les choses. Dominique Muller, oula oula, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ouais, d'abord, c'est une chose que très souvent, je ne prononce pas à voix haute, mais que j'ai dans la tête. Très souvent, oula oula, c'est une chose pour moi très familière. Il s'agit d'entrer dans un lieu public en feignant d'être à l'aise alors qu'on est mort de timidité et qu'on se demande si on n'a pas encore une étiquette qui dépasse de ses habits tout neufs.
Ah oui, ça arrive. Ou alors l'étiquette du pressing.
Oui, enfin, voilà, en tout cas, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et donc, tout le monde s'est déjà dit oula oula à ce moment-là.
Oui, moi c'est une chose que j'ai ressentie en tout cas. Véronique Brindeau, on est très loin de la japonaiserie oula oula. Je dis japonaiserie, c'est pas du tout péjoratif, de l'impressif japonais oula oula.
Je pense qu'on est plutôt aux antipodes si on doit être
quelque part. Ah, que ça se rejoint toujours.
Et on peut avoir le sentiment de Jean-Bernard Pouy, vous, ça voudrait dire quoi pour vous, oula oula ?
C'est un impressif qui est très lié au haïku, oui. Et aux amateurs de haïku, et notamment aux haïku d'hiver. Oui. Parce que ce n'est pas les mêmes que les haïku
d'hiver. D'hiver, saison.
La saison, oui, oui. Les haïku d'hiver.
Oui, parce que...
Alors, oula oula, c'est ce fugace sentiment de plénitude qui vous emplit l'âme en mangeant un navet. Le navet étant la lèvre culinaire. D'hiver.
En mangeant un navet uniquement, donc ça ne peut pas s'appliquer à l'endive.
Ça marche pas avec autre chose. Ça marche avec un navet, et là, tout d'un coup, on a un oula oula qui vous tombe dessus.
Véronique, on est plus proche.
Alors, pour la saison, ça dépend un petit peu. On est plutôt la fin de l'hiver ou début d'hiver, cœur de l'hiver ?
Dans les haïkus, le navet est l'hiver. Oui. Alors, est-ce que c'est un navet qui est...
Tardif.
Un vieux navet.
Un vieux navet.
Tardif, oui. Ou alors il a été gardé dans les réserves
pour faire le rôle d'une vulgaire patate occidentale. C'est-à-dire qu'on peut le manger longtemps. Mais le navet, ah, le navet est important, t'es d'accord Véronique?
Ah ben, je suis pleinement d'accord.
Il y a un très beau haïku qui dit le...
Et le navet va.
Le cultivateur...
ça commence comme ça.
Oui. Le cultivateur de navet montre le chemin avec un navet.
Ah oui, très très beau. Oui. Alors, donc, Véronique
Brando. Si c'est délicieux, on est près du sens de Oula Oula. Ah. Pour la saison, j'opterais pour un hiver assez doux, néanmoins. Disons que c'est plutôt un hiver du sud qu'un hiver du nord.
Oui, mais là, moi, je n'ai pas considéré le nord et le sud. C'est quand même très long, le Japon.
Bon, alors, Dominique est dans une impression de gêne parce qu'on a peut-être gardé l'étiquette de son manteau... avec le prix en plus sur son dos et qu'on entre quelque part. Jean-Bernard Puy est avec le navet et effectivement il est très heureux avec le navet. Hein, c'est un peu son truc, le navet. Jean-Bernard Puy. Et alors je sais Dominique que par rapport à votre oula oula donc un petit peu mal à l'aise, vous avez trouvé des citations,
traces.
Mais
oui, c'est pour ça, je suis certaine que ça signifie ça. Alors, par exemple, j'ai trouvé, je crois que c'est la première trace attestée. C'est peut-être une expression du grec encore plus ancien que le grec ancien dans Homère, dans l'Iliade d'Homère, chant 3. Et la fille de Zeus parut au palais merveilleux de Paris, beau comme un dieu. Son cœur en sa poitrine est troublé par la foule des robustes guerriers. Elle abaisse son voile éclatant de blancheur, songeant à la longue javeline du fils de Priam. Avec fureur, il dit « N'accable pas ma couche, femme, de ta pudeur. » Elle gémit « Oula, oula, des Troyennes, je serai la risée. La honte envahit mon front, oula, oula. » Ainsi dit Hélène, la oula oula houleuse. C'est tout. Mais je tiens à préciser, on est encore très au début. Aphrodite vient de forcer Hélène à coucher avec Paris. Et donc la pauvre est hyper gênée, sans doute parce qu'elle se doute de ce que cette gaffe monumentale va provoquer. C'est quand même une guerre, n'est-ce
mais
pas?
Mais oui, mais oui.
Donc c'est le plein sens de l'expression. C'est-à-dire, non seulement elle entre quelque part, mais ça provoque une guerre, vous vous rendez compte?
C'est pas donné à tout le monde de provoquer
justement.
Une guerre.
Et donc en plus,
c'est
on a
rare
là,
avec une étiquette.
Voilà, sur son voile éclatant de blancheur.
C'est la première fois.
Et on a là, sémantiquement parlant, le oula oula dans toute son acception tragique que reprendra Freud aussi.
Ah oui, même Freud. J'ai l'impression que Véronique veut intervenir, oui. Alors, Homère, oula-oula, c'est compatible?
Je pense que c'est beaucoup moins tragique comme ambiance que celle que décrit Dominique.
Ah, il ne peut pas y avoir...
Nous sommes dans la Grèce très ancienne, il y a très longtemps.
Il y avait des étiquettes
pas.
Dans la Grèce ancienne.
Mais c'était sur des tablettes, c'était un peu lourd d'ailleurs.
Elle a un voile tout neuf, elle est bien...
Regarde le 3, c'est vraiment lié à un défaut d'étiquette.
Oui, bah oui, exactement. Oui, oui.
Bon, moi, je trouve que c'est très joliment écrit, en tout cas par Homère. Ah et bon, on voit donc Oula Oula remonter à très, très, très longtemps. Et je ne sais pas si l'impressif japonais est aussi ancien.
Alors, les premières traces que j'ai trouvées dans mes recherches approfondies sur Oula Oula ne remontent qu'au 8e siècle de notre ère.
Ah oui. On va voir si, avec le sens du navet de Jean-Bernard Puy, on a des traces plus récentes, peut-être. Qu'est-ce que
mais
vous avez
navet,
trouvé?
Le navet, c'est une figure.
Oui,
c'est,
non,
c'est,
j'ai compris.
C'est le sentiment de plénitude, plus que le navet, qui est important.
Oui, voilà. Mais enfin, vous avez quand même dit que c'était en mangeant un navet.
Bah, parce que c'est là où on peut avoir le plus grand sentiment de plénitude.
Rien d'autre n'est comparable.
Non, rien d'autre n'est comparable. Moi, j'ai trouvé, bizarrement, dans le discours de la méthode de Descartes.
Ah bon? Ah oui?
Dans la quatrième partie.
Oui.
Alors, c'est très court, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après cela, je considérais en général ce qui est requis à une proposition pour être vraie et certaine. Car, puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle, un vrai oula-oula ontologique, je pensais que je devais aussi savoir en quoi consiste cette certitude. Et juste après, je ne l'ai pas noté parce que je ne veux pas quand même vous fatiguer.
Mais non, pas du tout, c'est toujours bien Descartes.
Juste après, il l'écrit, je pense, donc je suis.
Ah oui, juste après.
Pour la première fois, juste après.
Voilà. Après Oula Oula.
On peut contrôler auprès de...
Patrice Comon est d'accord? Enfin, vous découvrez Oula Oula. Vous n'avez pas travaillé sur Oula Oula, pas aujourd'hui en tout cas.
Oui.
Vous êtes d'accord avec cet extrait du
Absolument.
Discours de la méthode?
La poésie est la première métaphysique.
Ah bon. Alors, si vous le dites. Hein. Écoutez, en tout cas, c'est très beau, mais j'ai l'impression que vous me faisiez des signes, Dominique Muller.
Je piaffe parce que vous allez rire. Mais mon deuxième exemple est également tiré du discours de la méthode de Descartes.
Ah, mais pas dans la même situation et pas pour la même signification. Ça voudrait dire que
Descartes est un spécialiste du oula-oula, manifestement. Hein.
Voilà, ah, et oui, qu'il a déjà joué avant les papous à donner des sens différents à oula-oula.
En tout cas, dans ma phrase...
C'est très, très... Oui, Patrice.
Non, mais n'oublions pas qu'il a beaucoup fait sur la géométrie et l'optique et tout ça.
Oui.
Et que donc, le cercle, c'est quand même le hula-hoop. Donc, le hula-hoop, c'est complètement cartésien. Voilà. Tout est là.
Donc, on écoute votre citation de Descartes, toujours le discours de la méthode.
Ah oui, c'est dans la quatrième partie.
Oui.
Preuve de l'existence aussi. De Dieu et de l'âme humaine. Pareil, c'est juste avant aussi, voilà. Je pense. Donc, je suis... C'était... Puis, examinant avec attention ce que j'étais... Et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point en ce lieu public, il suivait très évidemment et très certainement que la substance du oula-oula, dont toute l'essence n'est que de penser, a besoin d'un public pour être. En sorte que ce moi, c'est-à-dire le oula-oula, quoique distinct du corps, est moins aisé à connaître que lui.
Rappelons votre oula-oula qui signifie entrer dans un lieu.
C'est se sentir mal quand on entre quelque part en disant mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas.
Il n'y a peut-être pas de contradiction. Peut-être qu'après tout, il est possible que chez Descartes, il y ait un sentiment de plénitude lorsqu'il entre dans un lieu et qu'il est mal à l'aise. Ça nous arrive souvent d'avoir ce sentiment très fort d'exister. D'exister alors qu'on est très mal à l'aise. Alors que quand on est à l'aise, on se sent bien.
On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte.
Et d'un seul coup, la gaffe. Le mal-être, et là, on se sent pesant, on se sent exister comme une pierre.
Et c'est peut-être le moment de manger un navet.
Et voilà, alors qu'on a une étiquette dans le dos.
Voilà.
C'est vrai, il n'a pas tort, hein, Hervé Le Tellier. Ça peut se rejoindre, non ?
Ah oui,
Patrice,
comment
vous vouliez ajouter quelque chose ?
C'est la première fois aussi dans ce texte que Descartes donne une naissance à la substance, ce qui est absolument remarquable.
Ah oui.
J'ai du mal le lire et je vais dès demain replonger dans la quatrième partie.
Absolument.
Dès tout à l'heure, Patrice Caumont.
L'existence du navet précède son naissance.
Oui, absolument.
Oui, absolument. Mais uniquement l'hiver, pour Jean-Bernard Pouilly. Est-ce que vous avez un autre extrait qui prouverait l'existence de oula-oula ?
Oui, mais alors là, c'est complètement différent parce que c'est tiré de San Antonio.
Ah,
dans un bouquet qui s'appelle Béru et les quatre coins de l'Hexagone. Vous savez que Gaune, c'est les habitants de Lyon, enfin les natifs de Lyon qu'on appelle les Gaunes.
Ah oui, je ne savais pas, mais je suis ravie de l'apprendre.
Et alors le texte explicite ça, évidemment.
Oui, oui.
Les tripes à la lyonnaise de la mère Grimoux, c'était pas des tripes à la lyonnaise, c'était Bernadette Soubirous, en plein oula-oula, discutant le bout de gras avec la Sainte Vierge. Inutile de préciser que c'était du gratiné de chez gratiné.
Donc, il y avait ce sentiment fugace de plénitude, comme celui qu'on éprouve en mangeant du navet. Et là, on mangeait quoi ?
Des tripes à la lyonnaise.
C'est pas la même chose que le navet.
Qui sont, je vous signale, c'est gratiné, les tripes à la lyonnaise.
Ah oui, oui. Non, je ne suis pas très tripes.
Très, très bon. Ah, ça, je vous conseille. Si vous avez,
Avec un gratin de navet, donc.
Ah, on peut faire un gratin
de navet. Ça
doit
être très, très bon.
J'ai l'impression que Véronique Brindeau fronce de plus en plus le nez. On est très loin du oula-oula japonais.
Du point de vue gastronomique, on s'éloigne considérablement de l'archipel, c'est certain. Pour ce qui est de la lumière et du caractère agréable de la situation, on est avec le oula-oula japonais tel qu'on en voit des traces à partir du 8e siècle, dans une douce lumière printanière, et plutôt la tiède chaleur propice à un déjeuner sur l'herbe.
Oui. D'autres traces, Dominique Muller.
Et bien sûr, une que vous avez sûrement tous lu, parce que c'est Proust, tout simplement, du côté de chez Swann. Ça se passe lors d'une soirée chez Madame de Sainte-Verte.
Oui.
Et cependant, avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, Monsieur de Palancy, qui se déplaçait au milieu des fêtes comme s'il cherchait son orientation, desserrait d'instant en instant son col, semblant se dégager de mandibule, dans un inquiet oula-oula qui donnait à son regard l'air effrayé d'un voyageur tombé chez des sauvages.
On sent le mal-être, là. Hein.
Ah bah oui.
Mais tout dans l'écriture de
toutes
Proust,
les scènes où il se moque assez méchamment de tous les gens qui font des pieds et des mains pour être invités et qui ensuite se sentent pas à leur place.
Pas à leur place, oui, c'est ça. Autre chose, Jean-Bernard Pouilly ?
Eh bien, Modiano, Patrick Modiano.
Ah.
Dans un roman assez récent qui s'appelle « Dans le café de la jeunesse perdue », qui date de 2007.
Oui.
Il y a cet extrait. À la sortie du studio Obligado, elle paraissait soulagée. Elle m'a dit que, désormais, c'était trop tard pour qu'elle rentre chez son mari. Il avait invité à dîner ce jour-là quelques amis à lui. Voilà, c'était fini. Il n'y aurait plus jamais aucun repas à Neuilly. Cette sourde vérité fut pour moi un véritable oula-oula, même si tout restait encore confus.
C'est marrant qu'il y ait ce sentiment de plénitude chez Modiano. Moi, dans votre texte, je pourrais davantage penser au sens donné par Dominique Müller à Oula Oula. C'est-à-dire
non, là, il va,
espèce
enfin,
de gêne, de mal-être.
Non, il va l'avoir pour lui. C'est un sentiment extrêmement agréable.
Ah, ouais.
Il le sait, le mari est... Il n'ira plus à Neuilly, donc il va pouvoir l'amener à Gare du Nord.
Vous avez lu cet ouvrage, Hervé Le Tellier ?
Oui, mais je ne m'en souviens pas du tout de ce passage.
Non, mais il faut relire, Modiano.
Je vais le relire. Je rentre chez moi, je relis aussi. Ça.
Et puis moi, je ne me souvenais pas de cette importance du navet, en tout cas du sentiment de plénitude chez Modiano.
Mais si, il fait la conquête, enfin, il essaie de faire la conquête de la dénommée Luki, je crois qu'elle s'appelle. Mmh. Et là, on sent qu'il va y arriver. Et le fait qu'il puisse y arriver, ça donne quand même... On a l'impression de manger un navet, quoi.
Un petit navet glacé.
Luki vit dans un hôtel un peu borgne avec des gens bizarres.
En tout cas, avec cette espèce de douceur, Véronique Brindeau, j'ai l'impression qu'on se rapproche du hula hula japonais, plus qu'avec le mal-être chez Proust du hula hula.
Et bien réfléchir.
Non.
Je pense qu'on peut tout de même concilier un petit peu cet état de malaise qui peut surgir d'un sentiment intime de solitude dans un climat qui, au contraire, pour tout un chacun, prêterait à la douceur de vivre et aux délices des navets l'hiver.
Oui. Alors donc, ça veut dire quoi, oula oula? Puisque maintenant, on a vu les traces dans la littérature française et c'était absolument passionnant. Mais on aimerait avoir votre approche du oula oula. Mais, Véronique.
Je n'ai pas d'approche personnelle du oula oula. Je dois dire que là, je m'abrite derrière les grands auteurs. Les auteurs les plus remarquables remontent bien avant les haïkus qui ne sont finalement qu'assez tardifs puisqu'ils viennent au jour à partir du XVIIe siècle à peu près. Mais leurs ancêtres, les waka, donc viennent du VIIIe. Et on trouve là de magnifiques emplois du oula oula. Le oula oula, c'est un doux rayon de soleil printanier.
Ah.
C'est un sentiment d'aise, de sérénité. Quelque chose de réconforté, de réjoui.
On est bien.
On se sent bien. Le temps idéal pour un pique-nique.
C'est plus oula oula que oula oula.
Les pétales de cerisier qui tombent autour.
Ça n'empêche pas d'avoir une étiquette sur ses vêtements.
Surtout au printemps. C'est vrai. Surtout au printemps, il y en a plein au printemps.
Et alors, on en trouve des traces. D'abord, comment on dit
Mais comme vous l'avez tous dit, oula parfaitement, oula oula.
Oui.
Alors peut-être un poème de cette magnifique anthologie du Manyoshu au 8e siècle, et par l'auteur présumé d'ailleurs de cette remarquable anthologie. Donc je précise son nom, je n'offense personne autour de cette table en rappelant qu'il s'agit de Otomo no Yakamochi, donc 718-785.
Oui.
Et voilà ce qu'il dit. Ura ura ni tereru aru hi ni hibari agari. Kokoro kanashimo hitori shi omoeba. Au printemps doucement ensoleillé, une alouette monte dans le ciel, mais moi j'ai le cœur triste car je suis seule.
Et j'ai pas entendu le oula oula dans la phrase. Vous pouvez nous dire ça.
Parce que ça, évidemment, le oula oula ouvrait la citation.
Redites-nous.
Oula oula ni tereru aru hi ni hibari agari kokoro kanashimo hitori shi omoeba.
Autre chose,
je ne voudrais pas pinailler, mais enfin, ça se termine tout de même par un sentiment de tristesse, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, c'est vrai,
hein,
mais printanier.
Enfin, bon,
je ne voudrais pas insister, moi non plus, mais j'ai souvent des gens vus en train de manger des rognons de bœuf et qui, à la première gorgée, font « oula, oula ».
Alors, on trouve cette même chaleur printanière chez Maupassant.
Ah oui ?
Dans une nouvelle, qui n'est peut-être pas la plus lue, qui s'intitule « Première neige ». Et ça se passe à Cannes. Donc à Cannes, en hiver, il fait un petit peu plus doux. Et donc le traducteur a utilisé ce vocable de « oula oula ».
Ah oui.
Alors, vous vous souvenez de cette histoire? C'est une histoire épouvantable d'une jeune femme qui est mariée très tôt à une espèce de hobereau normand, alors qu'elle avait une vie parisienne, gaie. Elle se retrouve enterrée dans ce manoir où elle se morfond et où elle ne tarde pas à tomber malade parce qu'il fait froid et humide.
Oui.
Et son mari, qui a l'esprit court et l'humeur joyeuse, dit Maupassant, lui refuse l'achat d'un calorifère qui lui...
Ah non, c'est méchant, ça. C'est mesquin.
Et donc, elle va délibérément marcher à moitié nue dans la neige, tomber malade, pour justifier l'achat du calorifère.
Mais c'est... On n'est pas loin de Dominique, hein, quand même.
On est toujours... Oui, là.
Mais là, c'est au début de la nouvelle. Elle est assise sur un banc solitaire, sur la croisette.
Oui.
Nue.
En hiver.
À moitié.
Ne rêvez pas.
Et la phrase commence ainsi. Ura ura to hare wa tatta, atatakai hi datta, fuyu to wa omoware nai, hizashi no furi sosogu, koharu biyori de aru. Il fait bon, il fait doux, c'est un tiède jour d'hiver où passe un soupçon de fraîcheur.
Oui, bah oui, bah là on est plus du côté de Jean-Bernard
Fouy. Sauf que n'oublions pas que c'est une femme malheureuse qui est en train de s'exprimer, n'est-ce pas ?
Mais la lumière est printanière.
C'est encore pire, la lumière.
Oui, tu as raison.
C'est encore plus cruel.
Plus triste, c'est encore exactement. Plus triste. Oui.
Voilà. Moi, je dis que les trois sens, finalement, sont assez compatibles.
Se rejoignent.
Se rejoignent et on accepte oula-oula et on va se servir de oula-oula.
Magnifiquement,
désormais.
Magnifiquement.
Et moi, je vous propose d'écouter Jeanne Carillon, parce que Jeanne, elle travaille. Hein. En ce moment, elle travaille son accent japonais et elle va nous chanter, tiens, Poupée de cire, poupée de son, la chanson de Gainsbourg pour France Gall, mais en japonais.
J'espère que vous allez la reconnaître.
Watashi wa yume miro chanson ningyo. Kokoro ni itsumo chanson afureru ningyo. Watashi wa kirei na chanson ningyo. Kono yo wa bara iro no bonbon mitai ne. Watashi no uta wa dare dere mo kiku wa. Mina watashi no yumita mo mieru wa. Dare demo itsu demo wara inagara. Watashi ga uta u chanson kite odori dasu. Mina tanoshizo ni shite iru kedo. Onto no aina nahante uta no naka dake yo. Watashi no uta wa dare demo kikeru wa. Minna watashi no uwasa mo mieru wa. Watashi wa tokidoki tame iki tsuku. Otoko no koho hitori moshiri moshi no ni. Ai no uta utau sono sabishisa. Watashi wa tada no ningyo sore domo itsuka wa. Omi o ii o kometa chanson itu wa toka kana o. Suteki na dareka san to kuchituke chitai wa.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Claude Niort et Philippe Baudouin. À retrouver sur franceculture.fr pour le podcast pendant un an à la page des papous du jour, page sur laquelle vous pouvez poster vos questions, demandes, remarques, rubriques, commentaires. Et puis baladez-vous dans notre vie du club et regardez les livres des papous. Pour tout savoir, ou presque, des activités et des parutions des écrivains, peintres, chanteuses, comédiens de l'équipe. Les nouveaux livres dont notre collectif 36 facéties pour des papous dans la tête, une coédition Carnet Nord France Culture. On se retrouve dimanche à 12h45 après le journal de la rédaction. D'ici là, passez de délicieuses heures à l'écoute de France Culture. Au revoir, dans quelques instants, c'est Tire ta langue par Antoine Perrault. Très bel après-midi.